Voix Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, Midia Abidjan, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. En République démocratique du Congo, la justice militaire a ouvert une enquête sur les affrontements meurtriers sur le lac Édouard à la frontière ougando-congolaise entre la marine de l'Ouganda et une force navale de la RDC. Les précisions avec Irénée Herman Ongbo.
Selon le lieutenant-colonel Kumbungoma de la cour martiale du Nord Kivu, le parquet militaire est déterminé à connaître et dans les moindres détails les conditions dans lesquelles se sont déroulés les incidents survenus sur le lac Édouard entre la force navale congolaise et la marine ougandaise. Le juge militaire congolais indique avoir déjà interrogé le commandant de la force navale, son adjoint, un militaire et un pêcheur congolais blessé par balle. Il précise aussi avoir interrogé le militaire congolais qui avait lancé une roquette qui a coûté la vie à 4 militaires ougandais. Difficile cependant pour l'officier de se prononcer pour l'heure sur les circonstances dans lesquelles 12 pêcheurs ont trouvé la mort lors des incidents. Lundi, un responsable local congolais avait donné un bilan provisoire de 12 pêcheurs congolais tués et d'une dizaine d'autres portés disparus. Une délégation congolaise est à Kampala depuis hier pour tenter d'apaiser les tensions.
Cameroun, la prochaine élection présidentielle dans le pays a été fixée au 7 octobre, selon un décret du président Paul Biya. Même si le chef de l'État n'a pas encore dit ses intentions, pour Elimbi Lobé, membre de la plateforme de l'opposition, le principal problème réside dans le fait que les potentiels aspirants à la magistrature suprême n'ont qu'une dizaine de jours seulement pour déposer leur candidature.
Le corps électoral vient d'être convoqué. Dans 10 jours au plus tard, les candidatures devront être déposées, déclarées. Eh bien, l'opposition n'est pas parvenue à se donner la main, à avoir une candidature de large consensus.
Elimbi Lobé, membre de la plateforme de l'opposition au Cameroun. Afrique de l'Ouest maintenant, la Côte d'Ivoire a depuis mardi un nouveau gouvernement avec 41 ministres et secrétaires d'État. Contre 34 pour le précédent. Mais le président Alassane Ouattara n'a pas réalisé de grands changements. Claire Morin-Gibault.
Alassane Ouattara a reconduit à leur poste les barons du RDR, Amadou Gon Coulibaly comme Premier ministre, Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense, Marcel Amontano aux Affaires étrangères et Candia Camara, la secrétaire générale du RDR à l'Éducation nationale. Le président Ouattara a gardé au gouvernement les ministres PDCI qui se sont déclarés favorables au RHDP, notamment Kobenan Kwasi Adjoumani, qui a lancé un mouvement dissident à l'intérieur de son parti. Albert Toiqueuse Mabri, président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, est de retour comme ministre de l'Enseignement. Il s'était prononcé en mai pour la formation du parti unifié. Le nouveau gouvernement ivoirien est très similaire au précédent, largement dominé par le RDR au pouvoir et ouvert aux personnalités favorables au projet de M. Ouattara d'avoir un grand parti unifié. Le président Ouattara cherche à élargir ses soutiens faute d'un accord avec son grand allié, le PDCI, avant les élections de 2020.
Au Sénégal, les avocats de 2 opposants condamnés pour corruption. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, et l'ancien ministre Karim Ouad accusent le pouvoir d'utiliser la justice pour éliminer ces 2 potentiels concurrents du président Macky Sall de la course à la magistrature suprême à l'élection de février 2019. Le point avec Ekia Badou.
Le procès en appel du maire de Dakar se poursuit en présence de la défense qui avait quitté la salle lundi pour protester contre le rejet de ses demandes de renvoi. Pour Maître Ousseynou Fall, un de ses avocats, la peine de prison de Khalifa Sall est un acte purement politique. On veut l'empêcher de participer à l'élection présidentielle de 2019. Karim Ouad, fils et ministre de l'ex-président Abdoulaye Ouad, a été condamné en 2015 à 6 ans de prison ferme pour enrichissement illicite et à la confiscation de tous ses biens. Il a bénéficié d'une grâce présidentielle en juin 2016 et depuis vit à l'étranger. Ses avocats ont dénoncé hier sa radiation déguisée des listes électorales, la qualifiant d'arbitraire et illégale. Le pouvoir du président Macky Sall se défend de toute implication dans les poursuites de ses 2 opposants, affirmant avoir laissé la justice suivre son cours.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Corne de l'Afrique maintenant, l'Érythrée et l'Éthiopie ont signé à Asmara une déclaration mettant fin à 20 ans d'état de guerre. La déclaration confirme la reprise du commerce, des transports et des télécommunications, ainsi que le rétablissement des relations diplomatiques bilatérales. Les deux voisins se sont livrés à une guerre fratricide qui a fait quelque 80 000 morts de 1998 à 2000. L'Éthiopie a promis de rendre la ville de Badme, qui était au cœur du litige sur le tracé de la frontière commune. Comment en est-on arrivé là? Idriss Fall joint Tsige Chiferan, journaliste éthiopienne basée à New York.
Nous avons à l'heure actuelle un Premier ministre qui n'est pas issu d'un groupe ethnique en rapport avec l'Érythrée. Avant la nomination de Haile Mariam Desalegn, le Premier ministre Meles Zenawi était du Tigray, province qui est frontière avec l'Érythrée et qui a une langue commune, une culture commune. Et peut-être parce qu'elles sont sœurs, elles avaient des différences plus profondes que si elles avaient été des provinces complètement séparées linguistiquement ou culturellement.
D'autant que l'Érythrée avait participé à la conquête d'Addis Abeba.
Pendant la libération du pouvoir de Mengistu Haile Mariam, oui, absolument. Ces deux régions étaient très proches quand il s'est agi de se débarrasser d'un ennemi commun, à savoir Mengistu Haile Mariam. Ensuite, on prit des décisions chacune dans leur intérêt. Par la suite, bon, il y a eu des différends qui se sont envenimés et qui ont ensuite mené à une guerre frontalière. Et à l'heure actuelle, vous avez un jeune Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, qui lui, en fait, est issu, il est à moitié Amhara, c'est-à-dire soit 20 millions d'habitants à peu près, et il est à moitié Oromo, ce qui représente 27 millions à peu près d'Éthiopiens. Et en plus, il est à moitié chrétien et à moitié musulman.
À l'époque de la guerre, il n'avait qu'une vingtaine d'années.
Absolument. Et cette rupture a eu un impact économique majeur, aussi bien en Éthiopie qu'en Érythrée, puisque bon, l'Éthiopie a perdu son débouché sur la mer une fois que l'indépendance a été acquise. Et l'Érythrée a perdu aussi un partenaire économique une fois que la guerre a eu lieu. Et les rapports ne se sont jamais améliorés entre les deux, puisqu'on avait deux leaders, à savoir Meles Zenawi d'un côté et Isaias Afwerki de l'autre, qui ne s'entendaient absolument pas, parce qu'ils se connaissaient beaucoup trop bien.
Maintenant, les Américains, quand même, apparemment, ont joué un rôle, parce que l'Érythrée, c'est sur la mer Rouge, c'est juste en face du Yémen, non?
C'est exact. Les États-Unis ont toujours été présents dans la sous-région, même pendant la guerre de libération du régime de Mengistu Haile Mariam. Les États-Unis avaient été auparavant même présents comme partenaires de la monarchie de Haile Selassie. Les États-Unis ont toujours été présents et le sont probablement encore aujourd'hui.
L'établissement des liaisons téléphoniques, aériennes, Addis va avoir accès à la mer maintenant, non?
C'est difficile de savoir comment le programme va se mettre en place. On en est déjà à de bonnes relations diplomatiques. Je pense que tout le monde va prendre ça lentement mais sûrement. Les idées ne manquent pas. Les relations économiques vont-elles s'améliorer sûrement? Mais quand? Personne ne le sait jusqu'à présent. Je ne pense pas savoir qu'il y ait un calendrier déjà mis en place. C'est un peu trop tôt. Donc je pense que tout le monde est prudent. Mais en tout cas, en Éthiopie, dans la capitale, beaucoup apprécient ce geste tant attendu de la part du gouvernement éthiopien qui aussi souhaite mettre en œuvre les accords d'Alger. C'est quand même pas rien.
Tsige Chiferan, journaliste éthiopienne basée à New York. On termine avec le sommet de l'OTAN à Bruxelles. Le président Donald Trump a lancé au premier jour de la réunion ce mercredi une attaque frontale contre l'Allemagne et a accusé Berlin d'enrichir la Russie et de ne pas contribuer suffisamment aux efforts militaires de l'Alliance. L'Allemagne est prisonnière de la Russie, a déclaré Donald Trump. Elle paie des milliards de dollars à la Russie pour ses approvisionnements en énergie et nous devons payer pour la protéger contre la Russie. Comment expliquer cela? Ce n'est pas juste, a souligné le président Trump. Donald Trump avait déjà dénoncé à plusieurs reprises le projet de doublement du gazoduc Nord Stream reliant directement la Russie à l'Allemagne et exige son abandon. Ses critiques contre le projet lui permettent d'enfoncer un coin dans l'unité des Européens, car cette affaire les divise. La Pologne, par exemple, estime que l'Europe n'a pas besoin de ce projet. Les pays de l'Union européenne importent 2/3 de leurs besoins en énergie. En 2017, ceci a représenté une facture totale de 75 milliards d'euros. À ce jour, la moitié du gaz acheté est russe. Mais les Européens cherchent à briser cette dépendance. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.